Fin de semaine, nous célébrons Pâques comme les chrétiens le font depuis près de 2000 ans maintenant. Nous ne célébrons pas la Pâque juive à proprement dit, car celle-ci annonçait, par le sacrifice de l'agneau pascal, annonçait la venue d'un sauveur, d'un messie, d'un homme choisi par Dieu et envoyé pour sauver les hommes. Maintenant, les chrétiens ont reconnu en Jésus de Nazareth, cet homme juif, le Messie, le Christ envoyé de Dieu. Par conséquent, depuis cette époque, les chrétiens célèbrent la Pâque, non plus dans l'attente de sa venue, car il est venu, il a donné sa vie sur la croix, et le troisième jour, il est ressuscité. Et si nous l'attendons, c'est que nous attendons son retour. Maranatha, viens Jésus, reviens bientôt. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes assemblés ce matin pour t'adorer avec Thomas, on veut dire mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort. Tu t'es humilié en te faisant homme et tu t'es humilié en mourant homme sur la croix, mais pas comme un simple homme, comme celui qui prenait sur ses épaules la charge, la condamnation qui revient en toute justice. À tout homme, à toute femme qui a vécu sur terre, car tous nous sommes pécheurs. Mais toi seul, comme un agneau pur et sans tache, ta vie en a témoigné, tes paroles en ont témoigné, ton attitude, ton cœur constamment, on voyait ton amour. Tu as persévéré et tu t'es rendu à la croix. Et tu as offert ta vie en sacrifice sur la croix. Puis tu t'es... Écrit, tout est accompli. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer parce que le troisième jour, tu as été ressuscité d'entre les morts. Et par la foi, Seigneur, nous recevons cette joie de croire en toi, Seigneur. Tu as dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, Seigneur. » Nous croyons en toi. Et d'une certaine manière, Seigneur, nous avons vu l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce matin, nous sommes assemblés pour célébrer ton nom, ta gloire, ta majesté, Seigneur. Alors ce matin, j'ai une requête pour toi, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Viens régner dans cette assemblée, viens régner au milieu de nous et dans nos cœurs ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que ton peuple te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu dans Jean 20.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Jean, au chapitre 20, versets 1 à 31, dans l'édition Second 21. Jean, chapitre 20, versets 1 à 31, édition Second 21. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi et vit, et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché la tête, le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car elles avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées et se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Merci, Julie. Qui était ici vendredi soir? Vous avez vu les tableaux? On va vous en montrer une. Peut-être que vous avez remarqué, vendredi soir, on soulignait la mort de Christ. Et puis Naomi Mathieu, avait fait des toiles qu'on avait affichées à l'arrière. Puis il y avait celle-là. Puis peut-être que vous a touché comme elle m'a touché moi. Elle représente en fait la résurrection de Lazare. Puis c'est Lazare qui regarde Jésus au moment où il est ressuscité. Puis je trouve que ça saisit tellement les possibilités. Évidemment, on n'était pas là. Mais donc, bien avant sa résurrection, Jésus avait opéré des résurrections, dont celle de son ami Lazare. Puis, c'est dans l'Évangile de Jean. Et je pense que c'est important pour aller saisir la profondeur de ce qui se passe au moment de la résurrection de Jésus, de voir déjà ce qui s'est passé. Si je vous relis rapidement, dans Jean 11, versets 32 à 35, voici ce qu'on lit. « Lorsque Marie, qui était une sœur de Lazare, fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jésus-Christ pour qu'à ce moment-là, il pleure? On ne sait pas, on est obligé de spéculer sans aucune certitude, puis on ne veut pas aller trop loin, mais quand même, à quoi est-ce qu'il pensait? Parce que régulièrement, on voit dans le ministère de Jésus qu'il sait qui il est dans toute sa personne. Il saisit son humanité, mais aussi d'où il vient, il saisit sa divinité. C'est volontairement qu'il a renoncé à exercer toute la gloire de sa divinité constamment devant les hommes. C'est volontairement qu'il est devenu un homme. Alors, qu'est-ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là où il voit que son ami est mort? Est-ce qu'il est ému parce qu'il est en train de constater puis de le sentir dans ses tripes tout le ravage de la réalité du péché? Ce qu'a entraîné la rébellion d'Adam, de Ève, puis toute l'humanité qui a été entraînée dans le péché avec les conséquences que sont la mort. Est-ce que c'est à ça qu'il est en train de penser? Ou est-ce qu'il est en train de penser à ce qu'il va expérimenter bientôt lui-même? Parce qu'il va mourir, il sait qu'il va mourir. Et Jésus a été vraiment humain. Dans son humanité, il a été complètement humain. Est-ce qu'il a goûté à notre trouble à nous devant la mort? Parce qu'il va y goûter plus tard, lorsqu'il va s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tu lis ça, puis quand tu connais bien Jésus à la lumière des Écritures, tu dis « mais pourquoi il dit ça? » Il sait très bien que Dieu ne l'a pas définitivement abandonné. Mais en même temps, la réalité du jugement divin qui vient descendre sur lui lorsqu'il prend la faute de nos péchés est là. Et il y a ce sentiment bien humain de se sentir complètement abandonné, où la raison ne suffit plus. Est-ce que c'est ça qui se passe? Ou encore, est-ce qu'il serait en train de penser à sa résurrection? Puis est-ce qu'il est ému en réalisant toute la souffrance des gens qui vivent avec la réalité de la mort sans une véritable, profonde espérance de la résurrection? Et est-ce qu'il est en train de penser à sa propre résurrection? Où il va vaincre la mort, il va vaincre le péché et il va nous assurer la vie éternelle. Je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé ce que Lazare a pensé, lui. Vous êtes sérieusement, là. Essayez juste de vous mettre dans sa peau d'un mort, OK? Il est dans un tombeau, il est couché, complètement emmailloté avec de la myrrhe, puis des essences, toutes sortes de parfums qui sont là, puis littéralement ligotés. Et puis tout d'un coup, le mort entend la voix de Jésus. « Lazare, sors! » Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été comme... Je ne sais pas, est-ce que ça s'est... Ça a été bien calme. Puis là, il a entendu « Lazare, sors! » Puis là, il est tout emmailloté, hein? Fait qu'il veut sortir. Sérieux, là, c'est comme... C'est de même que ça se passe. Il est tout emmailloté, c'est ça qui est écrit dans le texte. Je suis pas en train de déconner, là. Regardez ce que ça dit, le texte. Je suis très sérieux. « Le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. » T'as une momie qui s'en vient. Puis qui arrive devant Jésus. Puis là, Jésus donne une directive. Puis il dit « OK, enlevez les bandages. » Et c'est pour ça que j'ai été ému par la toile de Naomi, parce que je me suis dit, il s'est rendu jusqu'à Jésus, puis il a le visage couvert, puis il est ligoté. Et là, je ne sais pas, là, c'est pas moi le metteur en scène, tu sais, mais si j'avais été là, je les aurais coachés, puis j'aurais dit, juste devant la face de Jésus, tu sais, c'est là que tu les enlèves. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Mais oubliez ce moment-là, d'accord? Oubliez juste... L'instant, là, tu sais, où c'est comme, OK, je suis vivant, c'est beau. Dans les heures qui suivent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce monsieur-là qui finalement va mourir une deuxième fois? Comment tu envisages la vie à partir de là? Il me semble qu'il y a comme un revirement dans ta tête qui dit, c'est comme une deuxième chance, cette affaire-là. Je sais pas, tu sais, tu as peut-être des priorités qui changent. Comme les gens qui frôlent la mort, mais lui, il n'a pas frôlé, tu sais. Il est allé là, il est revenu. OK, on a du temps à rattraper, j'ai des relations à réparer, j'ai des priorités, tu sais, je sais ce que c'est. Je sais pas. Une résurrection, c'est comme une deuxième chance. Une chance de repartir à neuf. C'est vrai, ça a été le cas pour Lazare. Et l'espérance de tous les chrétiens de ressusciter comme Jésus-Christ est ressuscité, c'est l'espoir d'une chance de repartir à neuf, nous aussi, sans toutes les souffrances qu'entraîne le péché, mais dans la gloire de Dieu. Amen. C'est ça notre espérance. C'est d'avoir une autre vie où il n'y aura plus les souffrances, d'être promu dans la gloire avec Mme Grenier. Alors ce matin, on va voir ensemble que la mort de Jésus-Christ, si elle n'était pas suivie de sa résurrection, serait la plus triste des histoires. Mais sa résurrection, au contraire, puisqu'elle est réelle, nous ouvre les portes de la vie. Et Jésus va dire, « Béni soit celui qui croit sans avoir vu. » L'histoire la plus triste du monde. Avant de parler de la résurrection, on va aller rejoindre, dans le fond, les disciples. C'est ce que Jean fait dans son récit. Il va rejoindre les disciples au moment où ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Et eux, ils sont encore sur l'émotion de la perte qu'ils ont vécue. Christ est mort. Le Christ, loin, celui qui a été choisi par Dieu, est mort sur la croix. Et on va découvrir ensemble quatre sentiments qu'ils sont en train d'expérimenter. La peine, la peur, la désillusion, l'incrédulité. Dans Jean 21, on lit « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, au tombeau, dès le matin, très tôt, comme il faisait encore obscur. » Jean est fascinant quand on étudie beaucoup Jean. À tout moment donné, il fait juste un petit commentaire et tu te dis « Est-ce que c'est encore obscur parce que lorsque Christ est mort, c'était obscur? » Je ne sais pas, mais à force d'étudier Jean, c'est celui qui est le plus attentif à ces détails-là d'atmosphère. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Pourquoi est-ce qu'elle allait au tombeau? Elle allait au tombeau pour pleurer. Elle allait là pour pleurer son mort, pour pleurer son Seigneur qui est mort. Et elle trouve le tombeau ouvert. Dans son esprit, ce que ça représente, c'est un pillage de tombe. Dans son esprit, c'est ça qui s'est passé. Le corps a été volé, on a pillé son tombeau. C'était pas exceptionnel qu'il y ait des pillages de tombe à l'époque. Il y a un empereur romain qui a promulgué une loi pour condamner sévèrement ceux qui pratiquaient cela. Et donc, c'est ça sa compréhension. Dans Jean 21, on lit « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Puis elle voit deux anges qui lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle a beau voir des anges, elle n'est pas du tout dans la réalité de la résurrection encore. On a volé le corps de celui qui était le Christ. La peine, la tristesse, la peur. La peur, dans Jean 20, 19, « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Jésus n'est plus là pour les protéger. Quand les gens s'opposaient à Jésus et voulaient porter la main sur lui, puis par le fait même menaçaient ses disciples, chaque fois Jésus avait le mot, il avait le geste, il se passait quelque chose, il intervenait, il les protégeait même contre les éléments de la nature. Mais Jésus n'est plus là. Et celui qu'eux autres aimaient, qu'ils suivaient, celui qu'ils avaient célébré lorsqu'ils étaient rentrés dans Jérusalem, ils avaient célébré comme étant le roi des Juifs, a été arrêté. Il aurait été battu, il a été crucifié. Qu'est-ce qu'on va leur faire à eux? C'est des complices. Qu'est-ce qui les attend? Ils ont peur. Ils sont habités par la peur. L'incrédulité. L'incrédulité. Dans Jean 20, 25, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, parlant à Thomas. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Je ne croirai point. La peine, la peur, l'incrédulité, le désillusionnement. C'est dans un autre des quatre évangiles, dans Luc 24, qu'on lit ceci. La perte des plus grands rêves. Luc 24, 19 à 21. C'est Jésus qui est là, puis les disciples n'ont pas reconnu encore que c'est Jésus. J'aurais pas le temps de m'attarder beaucoup sur son corps glorifié, peut-être tantôt un commentaire ou deux, mais il y a quelque chose de spécial avec ce corps-là. Puis ça produit à certains moments où les gens ne le reconnaissent pas, puis tout d'un coup vont reconnaître qui il est. Et puis voici ce que les disciples répondent à Jésus. Ils lui disent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Donc, ces deux disciples-là parlent avec Jésus ressuscité, ne savent pas qu'il est ressuscité, puis lui est en train de les interroger pour dire « Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Vous avez la mine basse. » Mais tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Écoutez bien la suite. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Avec la mort de Jésus, c'est la fin des illusions. C'est la fin des rêves. Parce qu'Israël est sous domination romaine, parce qu'Israël attend ce Messie-là depuis des siècles maintenant. Non seulement il doit les libérer politiquement, mais il doit les ramener à Dieu, il doit ramener le peuple à Dieu, ramener le cœur du peuple à Dieu. C'est ça qui avait été annoncé. Et ils sont convaincus, ils ont vu les signes, ils ont vu les miracles, ils ont entendu ses enseignements. Et non, ça fait aucun doute. Ils sont prêts à mourir pour lui à tout moment pour défendre son nom. Il faut qu'il soit couronné. Mais lorsqu'il est arrêté, puis il est crucifié et qu'il meurt sur la croix, c'est la fin des illusions. C'est la fin d'un rêve. Celui qui est loin de Dieu a été détruit par les hommes. La peine, la peur, le désillusionnement, l'incrédulité. Puis dans un sens, si Jésus est mort et ne ressuscite pas, ils ont raison. Ils ont définitivement raison. Je veux dire, des grands sages qui ont semblé parler de la part de Dieu, même des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont apporté des vérités au nom de Dieu, puis qui ont fait une différence, mais qui éventuellement sont morts. Mais il y en a eu tellement dans l'histoire de l'humanité, tellement dans l'histoire d'Israël. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre grand sage qui nous parle de Dieu qui meurt et qui disparaît? Ou est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Est-ce qu'on a besoin d'un guide? Ou est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui vient nous sauver? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous donne sa sagesse et on va tout écrire ça dans les livres, puis des milliers d'années après sa mort, on va se rappeler de ses grandes paroles de sagesse, puis on va s'instruire avec ça, puis on va dire, quel modèle il a été? Est-ce qu'il suffit pour réformer le cœur humain de recevoir de bonnes instructions d'un homme sage? Non, on a besoin d'un sauveur. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, versets 14 à 19, je vous les lis rapidement, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, ça ne sert à rien, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisqu'on a annoncé sa résurrection. » Nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, s'il n'est pas ressuscité, tandis qu'il ne l'aurait pas fait, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, avec des principes, mais rien pour vous sauver. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, est-ce qu'on a le droit d'espérer dans une vie après la mort? On peut rêver, mais est-ce qu'on peut avoir un espoir fondé sur quelque chose plus qu'un rêve? Si Christ est mort et que l'histoire s'arrête là, est-ce qu'il n'était qu'un sage? Un homme comme les autres, en fin de compte. Ah, peut-être que Dieu fait des miracles par lui, mais quand même un homme comme les autres. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de véritable deuxième chance? Et plus que ça, il avait annoncé sa résurrection, alors si son histoire s'arrête au tombeau, ça fait de lui un menteur, un vendeur de rêves, un beau parleur, comme il y en a eu des milliers dans l'histoire de l'humanité, qui viennent nous vendre un rêve, mais qui ne sont pas capables de livrer. Voilà pourquoi la doctrine de la résurrection est tellement importante pour les chrétiens. Parce que l'histoire de la mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas la plus triste des histoires du monde. elle est suivie de la résurrection de Jésus-Christ. Et des centaines de personnes vont en être témoins, et des milliers et des millions de personnes à travers les siècles vont mourir. Les témoins oculaires vont mourir en défendant sur leur vie ce qu'ils ont vu de leurs yeux. La Pâque, c'est la plus belle des histoires du monde. Regardez ce que la résurrection a produit en contrepartie. C'est comme l'opposé des quatre éléments qu'on vient de voir. Ça va produire la foi, ça va produire la joie, ça va produire une mission, un sens profond à la vie, et ça va produire l'adoration, la foi qui vient remplacer la peur. J'ai tellement de peur dans ma vie. Tu as tellement de peur dans ta vie. Est-ce que tu as besoin de la foi qui vient remplacer la peur, la joie qui vient remplacer la peine, la mission qui vient remplacer le désillusionnement, parce qu'on court tous après des rêves dans cette vie. Chrétiens, non-chrétiens, on court après des rêves, on est jeune, on est fougueux, on a plein d'espoir, ou encore on est jeune, puis on est déjà désillusionné parce qu'on dit « tout va tellement mal que j'ai même plus de rêve ». Et Christ va venir, par sa résurrection, apporter dans la vie de ces gens-là un sens profond à la vie, une mission qui va inspirer toute leur vie. Et enfin, l'adoration qui vient remplacer l'incrédulité. Et encore une fois, l'adoration, c'est ce qui nous amène ailleurs. À quelque part, on est tous des adorateurs, mais par nature, on est adorateurs de petits dieux qu'on s'est forgés par nous-mêmes, qui sont à notre ressemblance, à notre image, décevants, ambition, argent, sexualité, amour, name it, réalisation, je veux laisser ma marque. Et lorsque ces choses-là occupent toutes mes aspirations, prennent toute la place dans mon cœur, de telle sorte que celui qui vraiment peut combler ces aspirations-là, Dieu, n'a pas sa place, ce sont des idoles à ce moment-là. Et donc l'adoration qui vient remplacer l'incrédulité, c'est ça qui vient remplir le cœur humain. Lorsqu'on réalise qui est mort sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts. La foi. Commençons par la foi. Jean 28. Alors, l'autre disciple, qui est probablement Jean, okay, c'est Jean qui écrit l'Évangile, c'est un gars d'une humilité exceptionnelle, fait qu'il ne se nomme pas, mais par déduction, assez clairement, c'est l'apôtre Jean. Alors, l'autre disciple qui est arrivé le premier au sépulcre entra aussi, parce que Marie de Magdala est allée leur dire, elle leur a dit, le tombeau a été ouvert, le corps n'est plus là. Et donc, lorsqu'il arrive, il entre, il vit, et il crut. Et c'est la première fois dans tout le chapitre où on a un indice qu'il va croire dans la résurrection. Et ça fait une espèce d'écho à ce qui va être mentionné plus loin au verset 29. Lorsque Thomas a besoin de voir, même il voudrait toucher. C'est même pas clair d'ailleurs que Thomas a touché. Hein? Jésus lui dit « Viens, touche ». Puis Thomas s'exclame. On ne sait même pas s'il a eu besoin de toucher. Parce que là, il a vu, là, c'était là. Mais Jésus va dire quoi? Il va dire « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Et donc, c'est la première fois qu'on a dans le chapitre cette idée-là. Un écho, Jean n'a pas vu encore Jésus ressuscité. Il a juste vu le tombeau qui est vide. Et remarquez la beauté de la résurrection de Jésus. Je vais essayer d'être court, d'être bref sur ça, mais j'ai fait exprès pour parler de la résurrection de Lazare parce que lorsqu'on regarde les deux résurrections, il y a comme une espèce de contraste incroyable. Dans le cas de Lazare, je vous l'ai dit, j'ai fait exprès pour l'imiter, mais tu sais, c'est en anglais, c'est messie ce qui se passe. Il est comme pas messie dans le sens de sauveur, là, c'était pas un mauvais jeu de mots, mais c'est sale ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, je sais même pas si le tombeau est assez haut. Tu sais, il s'en va, puis ponk, je sais pas ce qui se passe. Puis il y a tous ces bandages, puis on va tout défaire ça. Puis lorsqu'on arrive à la résurrection de Jésus, regardez ce qu'on lit dans les passages. Au verset 20, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et puis un petit peu plus loin, lorsque Marie retourne au tombeau puis qu'elle se penche, elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre aux pieds, comme si c'était des sentinelles qui étaient là en train de veiller sur le lieu où avait été le Sauveur. C'est parce que c'est la résurrection du Christ, du roi, de notre Sauveur. La joie qui vient remplacer la peine, Jean 20, 15, 16. Jésus lui dit, encore une fois, elle ne sait pas que c'est Jésus à ce moment-là, c'est avec Marie de Magdala, puis « Femme, pourquoi pleures-tu? » Puis « Femme », là, c'est pas comme si un Québécois le disait, OK, c'est pas « Femme », pas ça. C'est comme « Madame », OK? C'est bon. Juste comme ça, des fois, tu sais, on décroche vite. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, celui qui entretenait les jardins autour des tombeaux, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » J'ai vraiment pas le temps d'aller dans tous les détails, mais Jésus l'appelle par son nom, comme il va m'appeler un jour par mon nom, puis il va t'appeler par ton nom si tu as cru en lui. Marie. Puis Marie connaissait Jésus de son vivant, fait qu'elle reconnaissait sa voix. Lorsqu'elle entend le son de sa voix prononcer son nom, c'est plus femme, c'est Marie. Elle jette sur lui. Rabouni, maître, dans le sens, mon enseignant, celui qui m'apporte la vérité. Elle reconnaît immédiatement, puis son cœur est rempli de joie. Jean 20, 21. Excusez-le. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Je m'excuse, verset 17. Jésus leur dit, je suis rendu vraiment trop loin, verset 20. « Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Lorsqu'ils ont eu la conviction de la résurrection, toute la peine qu'ils avaient vécue est disparue. C'est la joie. Ils ne comprennent même pas encore vraiment ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit n'a pas été véritablement donné. Il y a comme un symbole où Jésus va souffler sur eux. Je ne vois pas la Pentecôte dans ça vraiment. Je pense qu'il annonce la Pentecôte qui est à venir. Mais donc, ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ils ne comprennent pas vraiment à quel point les Écritures se sont réalisées. Mais il est là, il est vraiment là. Et leurs cœurs sont remplis de joie. La mission, là c'est vrai, Jean 20, 17. Jésus dit à Marie, d'accord? « Va trouver mes frères. » Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Encore une fois, je voudrais m'étendre sur ça. Mon Père, votre Père. Parce que là, vraiment, on peut entrer dans sa famille. À cause du sacrifice, on peut vraiment être adopté. Mais regardez la mission qu'il y a là. À celui qui croit, à celui qui voit le Christ ressuscité, à celui qui sait que Jésus est ressuscité, Jésus donne toujours une mission, toujours une seule mission. Va, dis-le. Va le dire à tes frères, va le dire à mes frères, va leur annoncer. Tu le sais, va le dire. Regardez, il va leur confier ça un tout petit peu plus loin. Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Je vous envoie faire quoi? Aller annoncer le Christ ressuscité. Aller annoncer le Christ crucifié, aller annoncer le Christ ressuscité. Et vous allez le faire avec foi. Et vous allez le faire avec joie. Vous avez une mission maintenant. Votre vie a une quête, a un sens. Et donc, les chrétiens, on va dans la vie, puis on a 16 ans, on a 17 ans, on a 18 ans, puis on se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Tu veux dire, à part d'annoncer la plus belle nouvelle du monde, c'est ça? Oh oui, c'est ça, parce qu'il faut que je fasse quelque chose quand même en attendant. C'est bon, c'est bon. Puis on s'en va dans la vie, puis on dit, OK, où est-ce que je vais aller vivre? Où est-ce que j'ai le goût d'aller vivre? Tu veux dire, où est-ce que tu as le goût d'aller annoncer Jésus-Christ, c'est ça? Oui, oui, c'est sûr, mais tu sais, peut-être moi je le ferai en campagne, peut-être moi je le ferai en ville. Puis là, on perd notre travail, puis là, on perd la santé, puis il y a des obstacles dans la vie, puis là, c'est ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de sens. Comment ma vie peut ne plus avoir de sens parce qu'on m'aurait enlevé mon statut, enlevé mon travail, enlevé ma santé, tant qu'il me reste un souffle d'air, je vais continuer à prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ça le sens profond de ma vie. Ceux qui ne connaissent pas Christ doivent trouver un sens à leur vie. Ils vivent comme si la vie s'arrêtait ici-bas. Ils vivent pour quelques années. Autant s'amuser le plus possible. Les chrétiens, on a un pack-sac sur le dos, puis on dit, Seigneur, merci pour le soleil, merci pour le bon repas, la vie sur terre est géniale, mais moi, je suis un pèlerin et je voyage léger. Parce que j'ai un message et j'ai une mission. On peut tout m'enlever tant qu'il va me rester un souffle de vie. ma mission n'est pas terminée. On peut m'enlever tous mes rêves humains, terrestres, puis c'est correct d'en avoir, c'est pas ça le point. C'est qu'ils sont, ils sont toujours là pour appuyer. C'est juste comme ma vocation. Moi, je suis médecin, moi, je suis dentiste, je suis maman à la maison en train de m'occuper de mes enfants. Je suis une missionnaire en train d'annoncer Christ. C'est une vocation, mais ma vocation par excellence, c'est d'annoncer le Christ crucifié, ressuscité. Et enfin, l'adoration. Dans Jean 20, 27, 28, une des déclarations sur la gloire, la majesté de Jésus-Christ les plus claires dans toutes les Écritures vient de Thomas l'incrédule. Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Comme je vous dis, on ne sait même pas s'il l'a fait. Mais il est là, puis l'incrédulité disparaît complètement. Et d'incrédule qu'il était, il se transforme en adorateur. D'incrédule, il devient un adorateur, puis il s'exclame, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Tout l'évangile de Jean a en filigrane, en arrière-plan, avec des indices des fois super clairs, comme dans Jean 1, puis là, on arrive à la fin complètement de Jean, puis on revient avec une déclaration encore plus saisissante même que Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Là, vous entendez la voix d'Édouard, pas la mienne, c'est correct. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que Thomas dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Il est devenu un adorateur. Il est devenu un adorateur. Quel autre message est-ce que je peux avoir annoncé? Et c'est ça qui fait que l'histoire de la Pâque, c'est l'histoire la plus importante du monde. L'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'histoire la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Cette histoire-là nous a été rapportée par l'apôtre Jean, et c'est merveilleux. Des fois, tu étudies les livres de la Bible, tu te dis, OK, pourquoi il a été écrit exactement lui? Je comprends le récit, mais c'était quoi le but précis de l'auteur? Jean nous le donne, bullseye, dans le mille. L'Évangile de Jean a été écrit afin que ceux qui ne verront pas Jésus de leur vivant sur terre, par les récits qui nous sont rapportés des témoins oculaires, en voyant des individus qui étaient dans la peine, qui étaient dans l'incrédulité, qui étaient dans la peur, qui étaient dans le désillusionnement, être transformés en personnes remplies de foi, de joie, d'une mission remplie d'adoration, afin qu'à notre tour, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'années plus tard, jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous puissions être transformés à notre tour en adorateurs de Jésus-Christ, en missionnaires qui annoncent Jésus-Christ, remplis de joie et de foi. C'est l'histoire la plus importante du monde. Dans Jean 20, 29, on lit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et donc, Jean avait à l'esprit tous ceux qui ne verraient pas, mais qui croiraient. Lorsqu'il rapporte ces paroles de Jésus, Jésus est en train de prononcer une bénédiction. Le mot « heureux » qu'il y a là, c'est le même mot que dans les Béatitudes, dans l'Évangile selon Matthieu, « béni soit ». Puis c'est un mot qu'on n'a pas vraiment un équivalent aussi clair en français. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire « joyeux », mais « joyeux » parce que tu as la faveur de Dieu. C'est ça, être béni. Être béni, c'est recevoir la faveur de Dieu qui apporte la joie dans mon cœur. Béni soit la servante qui a été choisie par Dieu pour porter le Sauveur. Hein? Alors, béni, béni, béni ceux qui vont croire sans avoir vu. Et depuis ce temps, des millions et des millions de personnes sont bénies. Dans Jean 20, verset 30-31, Jean dit, « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Dans l'Évangile de Jean, c'est plus significatif encore. Dans le fond, il dit, tu sais, j'aurais pu quand même en écrire bien des bouquins, tu sais, tombe 1, tombe 2, tombe 3, avec tous les miracles qu'il a fait. Mais dans l'Évangile de Jean, les miracles, il y a un autre mot grec qui est là. Des fois, certaines traductions vont le rendre. Vous n'avez pas nécessairement besoin du grec pour l'avoir. Des fois, ça va être traduit par signe. Alors, les miracles dans l'Évangile de Jean sont souvent des signes qui nous aident à comprendre qui est Jésus. Jésus m'a multiplié les pains parce qu'il est le pain de vie, il est celui qui nous nourrit véritablement. Et ce miracle-là, celui de la résurrection, c'est un des signes parmi tous les signes qui ont été donnés. Et Jean, qui a été témoin de tous ces miracles, a choisi, inspiré par l'Esprit-Saint, un certain nombre de miracles qui allaient être des signes afin que ceux qui liraient l'Évangile de Jean puissent comprendre que ces miracles-là n'étaient pas là simplement pour dire que Jésus est puissant, que Jésus vient de Dieu. C'était pas juste des tours de magie pour dire « Wow, il est vraiment hot! » Il y a un message dans chacun de ces miracles-là qui sont des signes qui nous indiquent quelque chose. Et dans le miracle de la résurrection de Jésus, il y a le signe qu'il est celui qui donne la vie. Il est celui qui va revenir et qui va juger, et il est celui qui va donner la vie, comme lui-même est ressuscité d'entre les morts. Jean 20, 31, Jésus est celui qui a été envoyé. Mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ. Le Christ nous vient du grec, krio, qui est la même chose que Messie, d'accord? Des fois, on va traduire le mot hébreu, des fois, on va traduire le mot grec. Christ veut dire Messie. En français, ce que ça veut dire, c'est celui qui a été oint par Dieu. Vous avez déjà vu dans des films, lorsque un roi va être mis à part, puis il va y avoir un prêtre, peut-être qui va être là, puis il va verser un peu d'huile sur sa tête. Il est oint, ça veut dire qu'il est choisi. Et donc, Jésus, le Christ, c'est Jésus l'élu. Jésus le choisi, celui qui a été choisi par Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et à travers tout l'Évangile de Jean, on voit combien Jésus est fils de Dieu, mais d'une manière spéciale. Dans Jean 5, je vous lis juste quelques versets pour donner de la profondeur aux paroles de Jésus lorsqu'il dit à Marie, « Va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Dans Jean 5, voici ce qu'on lit. C'est Jésus qui est en train de parler, puis les docteurs de la loi ne comprennent pas, puis sont scandalisés de ces paroles-là. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le signe de la résurrection. Puis Jésus va dire à Marie, « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » À toi, Marie. Tu connais mon intimité avec le Père? C'est ton Père maintenant. C'est pour ça que Jésus va dire, « Demandez au Père par vous-même. Allez-y. » Je meurs sur la croix, je ressuscite d'entre les morts. Le voile se déchire, vous avez accès au Père. Maintenant, celui qui est mon Père, c'est votre Père. Les chrétiens s'approchent de Dieu avec cette foi, cette joie, cette assurance qu'on a vraiment accès auprès de notre Père. Cet évangile a été écrit avec ce but très, très précis, que l'on puisse avoir la vie éternelle. Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. À celui qui croit en Jésus, la vie éternelle est déjà commencée. Va suivre quelque temps plus tard la Pentecôte où Jésus va accomplir. Dans ce passage-là, il dit, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais bientôt il va monter vers son Père, puis il va envoyer son Esprit. » Et les disciples, hommes, femmes, tous ceux qui ont cru vont être habités par son esprit. Et donc, il y a une résurrection réelle qui se passe au moment où je crois. Les Écritures, Jésus l'appelle des fois la nouvelle naissance. J'expérimente la nouvelle naissance. Je passe par une vie nouvelle qui est en moi. Et déjà, je suis ressuscité. Maintenant, il reste mon corps. Tellement fatigant, ce corps-là, avec le vieil homme, l'écho du vieil homme qui est celui, justement, qui était dominé par des passions, par des idoles, j'ai son écho souvent. Mais déjà, je suis dans cette vie éternelle, je suis entré. Et j'attends la résurrection finale. Cette vie est commencée. Elle est commencée en moi depuis des décennies maintenant, parce que je suis un vieil homme. Depuis des décennies, j'ai cru à l'âge de 19 ans. J'entendais l'histoire depuis l'âge de 7 ans. Quand j'ai cru à 19 ans, il n'y a rien de nouveau qui s'est passé au niveau de ma compréhension, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans mon être intérieur. Mon cœur a cru que Christ devait être mon Seigneur. Puis toutes les luttes ont cessé. Et à ce moment-là, une vie nouvelle a commencé à moi. Et la peur m'a quitté progressivement. Et plus j'avance dans ma vie chrétienne, plus la peur disparaît de ma vie. La peine qui vient si souvent lorsqu'on est attaché aux choses de ce monde, plus j'avance dans la vie chrétienne, s'atténue, ça devient un écho qui, même à travers la souffrance, et je vous l'ai dit, j'accompagne des gens souvent, peut-être vous avez eu l'honneur de le faire, d'accompagner des gens qui souffrent et qui se préparent à aller rencontrer le Seigneur. Ma vie a un sens. Vous pouvez tout m'enlever. Les hommes pourraient tout m'enlever. Tant qu'il va me rester un souffle de vie, ma vie sur terre a encore un sens. Même dans mes journées les plus poches, les plus nulles, les plus contrariantes, les plus frustrantes, même quand ça dure des semaines, quand ça dure des mois, puis tout ce que j'essaie d'entreprendre ne fonctionne pas, ma vie a encore un sens. Parce que j'ai une mission. Je dois aller annoncer le Christ crucifié et ressuscité. Ainsi, à tous les jours, depuis que je suis né de nouveau, à tous les jours, à chaque instant, n'importe où sur la terre, quand tout le monde est autour de moi en train de s'en aller au travail puis sont là comme des zombies sur leur patente, moi, j'ai la possibilité d'adorer le Seigneur. Quand ça va mal au boulot puis tout est tendu, j'ai la possibilité de faire une pause intérieure puis de dire, Seigneur, tu es souverain. Quand j'ai une mauvaise nouvelle puis c'est la cata totale, encore là, je peux m'arrêter et dire, « Seigneur, je comprends rien. » Je capote un peu, là. Mais tu es le patron, puis moi, je vais t'adorer à travers cette épreuve-là. Parce que je suis devenu un adorateur. Mais plus que cela encore, j'aime bien cette citation. C'est Josh McDowell qui dit, « Peu importe combien nos luttes, nos déceptions, nos soucis nous oppressent, elles ne sont que temporaires. » Peu importe ce qui vous arrive, peu importe la profondeur de la tragédie ou de la douleur que vous rencontrez, peu importe la mort qui vous guette, vous et vos proches, la résurrection vous promet un avenir de bonheur inimaginable, inconcevable. Et tout cela parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je ne sais pas où est-ce que tu es par rapport à la foi. Peut-être que tu as cru sans avoir vu, mais ta foi est vacillante. Ta voix est tremblante parce que tu es occupé par des peines, par des tristesses. Ta foi est moins ferme. Tu as le sentiment que ta vie a perdu son sens parce que tu as perdu ton compas. Tu as perdu ta boussole que Christ donne ici à Marie puis aux disciples. Allez! Allez annoncer, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Peut-être que tu as perdu ton cœur d'adorateur. Et ce matin, avec cette Pâque, Dieu veut, par la puissance de son Esprit, te redonner ton cœur d'adorateur. Son Esprit parle à ton cœur et il dit, « Viens déposer tes fardeaux, viens déposer ton incrédulité, viens déposer tes tristesses. Viens retrouver le sens profond de ta vie à travers toutes tes épreuves. » Il n'y a pas de cause plus noble parce que, comme Billy Graham l'a dit, il n'y a pas de plus belle, de plus bonne nouvelle qui sera jamais donnée aux hommes que la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de nos âmes, pour notre résurrection. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Bientôt, on va chanter un chant, puis un autre chant, puis les placeurs vont s'avancer, vont distribuer les éléments. Puis on a pensé que c'était bon de faire ça à la part. Et donc, si tu es chrétien, tu as cru en Jésus-Christ, tu as témoigné publiquement de ta foi en passant par les eaux du baptême, on t'invite à prendre les éléments tout à l'heure lorsqu'ils vont passer. Si dans ton cœur, tu dis, « Seigneur, je le mérite pas. » Amen! Le jour où tu vas me dire que tu le mérites, on va avoir une longue conversation, toi puis moi. Tu le mérites pas, c'est certain. C'est juste Jésus qui l'a mérité. Mais viens, puis prends les éléments. Prends les éléments, puis dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la joie de mon salut. Chasse la peine, redonne-moi la foi, Seigneur. Aide-moi à cesser d'être distrait par toutes sortes de choses dans le monde, des quêtes, des idoles qui viennent me distraire de cette mission que tu m'as donnée, d'annoncer le Christ mort et ressuscité. Redonne-moi mon cœur d'adorateur. Si tu n'es pas chrétien, laisse passer les éléments. C'est tellement précieux pour nous. Je ne voudrais pas que tu prennes ça avec négligence. Mais ce matin, le Christ t'appelle. Et alors que nous, on va se recueillir, puis dans nos cœurs, on va adorer, peut-être que c'est maintenant que tu vas devenir un adorateur de Jésus-Christ avec nous à travers la louange. Et cette Pâque-là va peut-être être le jour de ta résurrection spirituelle. Amen.